Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
7 ans après un premier déplacement présidentiel en Guyane, Emmanuel Macron est de retour à Cayenne. Une visite de 2 jours dans un département français en proie à de nombreuses difficultés.
C'est avec beaucoup de bonheur que je suis ici aujourd'hui pour, avec lucidité, regarder ce qui va et ce qui ne va pas et essayer de bâtir avec les membres du gouvernement qui m'accompagnent et l'ensemble des services de l'État et des élus des solutions responsables pour bâtir l'avenir de la Guyane.
Et le président est attendu de pied ferme par la population qui, au second tour de la présidentielle en 2022, a voté à 60% pour Marine Le Pen et son discours sécuritaire. Pour cette militante associative, les Guyanais ne cachent pas leur ressentiment envers Emmanuel Macron.
En tant que candidat, il nous a fait croire qu'il était à l'écoute et qu'il entendait les revendications. Et une fois président, il s'est déplacé en Guyane fin 2017 et il nous a dit qu'il n'était pas le Père Noël.
Un climat de défiance qui interroge sur les liens de la France et de ses anciennes colonies. Rebaptisées DROMCOM, ces territoires français d'outre-mer offrent à la Marine nationale des ports d'attache sur l'ensemble du globe. Mais sur place, derrière la carte postale, le quotidien des ultramarins rime avec vie trop chère, problèmes d'accès à l'eau potable, pauvreté, criminalité et insécurité. Mayotte est confrontée à une crise migratoire. La Guadeloupe, elle, s'enfonce dans la violence, selon le maire de Pointe-à-Pitre, qui a menacé hier de démissionner.
Je vois des centaines de touristes qui déambulent dans Pointe-à-Pitre et en fait, ces gens mettent leur vie en danger. Pointe-à-Pitre, en l'état, est un coupe-gorge, sans force de l'ordre.
Alors l'État français, qui accorde 28 milliards d'euros par an à ses DROMCOM, devrait-il en donner encore plus ? Qu'apportent ces départements lointains à notre pays ? La France pourrait-elle se passer de son outre-mer ?
Alors autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. À mes côtés, bonsoir Mico Blujon-Mered.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po. Vous êtes également enseignant à l'école de guerre. Selon vous, la relation entre la métropole et l'outre-mer marche dans les deux sens, dites-vous, d'un point de vue stratégique, économique, environnemental. La France a besoin de ses outre-mer. Et de l'autre côté, quasiment aucun territoire ultramarin, dites-vous, ne pourrait s'émanciper économiquement de la métropole. À vos côtés, bonsoir Claudicia.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, producteur de l'émission Couleurs tropicales sur RFI, ancien délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Selon vous, sur ces territoires plane encore l'ombre de la colonisation. La France les empêche de se développer, notamment en les obligeant à importer des produits très chers venus de la métropole. Et puis à vos côtés, bonsoir Anne-Marie Le Pourriette. Vous êtes professeure émérite de droit et vous avez d'ailleurs notamment enseigné à l'Université des Antilles et de la Guyane. Et selon vous, l'outre-mer est sous perfusion et ne pourrait survivre aujourd'hui sans la métropole. Dans ces conditions, les DROMCOM ne peuvent pas prétendre au même niveau de vie qu'en métropole. Il faut même, dites-vous, baisser les salaires et les allocations. Tout de suite, pour ouvrir le débat, Benjamin, vous avez un chiffre du jour.
4% de la population française vit dans des départements éloignés de la métropole, hein, soit 2 200 000 habitants. Répartit ses outre-mer sur les deux hémisphères et qui rayonnent sur 3 océans, on le sait, Atlantique, Pacifique et Océan Indien. Une première question, Mico Blujon-Mered, c'est une spécificité française ou d'autres pays européens ont également des territoires très éloignés comme nous ?
Alors oui, d'autres territoires européens ont des territoires plus ou moins éloignés, effectivement. La notion d'outre-mer au niveau européen, elle est assez variable. C'est-à-dire qu'effectivement, la France va avoir des territoires qui vont être lointains. Le Royaume-Uni, même s'il n'est plus dans l'Union européenne, c'est pareil. Par contre, typiquement, la Finlande va considérer, par exemple, les îles Åland, qui sont juste à côté de la Suède, comme un outre-mer. Là, il va y avoir une dimension identitaire, une dimension culturelle, une dimension statutaire. Et effectivement, il y a des territoires qui sont plus stratégiques que d'autres, en fonction des États.
Anne-Marie Le Pourriette, qu'est-ce que tous ces départements et collectivités apportent à notre pays ?
Oh, beaucoup de richesses culturelles et autres, hein, c'est merveilleux. Et puis ça apporte aussi des eaux territoriales immenses sur l'intégralité du globe. Il n'y a pas beaucoup de pays qui existent partout sur cette carte. Mais le problème récurrent qui est traité, qu'on voit partout à Mayotte et autres, c'est le problème de l'égalité sociale avec la métropole, qui fait que des régions qui sont dans une géopolitique très particulière ne peuvent pas, avec les salaires et les avantages sociaux qu'ils ont, être compétitifs dans la région. Donc la perfusion est quasi obligatoire avec ce système.
On va y venir, mais Claudie Sciarre, c'est vrai qu'on le disait, 80% de la biodiversité est située dans les territoires ultramarins, c'est quand même énorme, c'est 20% des lagons et des atolls, et c'est aussi tout ce qui va toucher à la montée des eaux, c'est quand même des enjeux très importants qu'on a en Outre-mer aujourd'hui.
Je vous regarde dans les yeux parce que j'ai envie de vous dire waouh, super, c'est génial, c'est magnifique, on pourrait presque avoir autour de tout ça un discours très angélique. Il faut juste rappeler que la France, finalement, l'État français, je le dis et le répète, c'était dans mon dernier rapport de délégué interministériel, traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial et que les originaires de ces territoires-là étaient fondés vers une évolution statutaire au regard des inégalités de traitement. Puisque, alors hasard un peu du calendrier, mais le 19 mars dernier marquait l'anniversaire, si je puis dire, de la départementalisation en 1946. Et depuis cette date-là, des femmes et des hommes se battent pour une égalité réelle. Alors de dire que la France est la deuxième puissance maritime grâce à ses outre-mer, alors que les inégalités perdurent, alors que des lois d'exception, et merci beaucoup Anne-Marie, donc lorsque à Mayotte, on va supprimer le droit du sol.
Pour faire face à la crise migratoire, c'est ce que dit le gouvernement.
Vous savez, tant que, lorsque vous avez un État qui est capable d'avoir...
Ce ne sont pas les citoyens maorais, évidemment, qui seront privés du droit du sol.
Évidemment. Mais lorsque vous avez un État qui est capable, justement, d'avoir ce type de loi d'exception dans certaines régions au regard d'une situation donnée, cela veut dire que le principe, après, demain peut être, à partir de 2027, on ne sait pas ce qui nous arrivera, mais pourra être appliqué sur l'ensemble du territoire français. Je pense qu'on ruse avec les principes édictés par l'État et ce que nous dit notre Constitution. Modifier la Constitution pour ce type de territoire, ce type de problématique, je pense que... Alors, je vais aller jusqu'au bout, parce que je n'osais pas le dire, mais je vais le dire. Je n'étais pas pour la départementalisation de Mayotte. Je pense que ça n'allait pas dans le sens de l'histoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas que la France soit aux côtés des Mahorais, parce qu'il y a une promesse faite, parce que la France a toujours été là.
On va faire le point des départementalisations, départementalisations qui remontent à 2007 dans le cas de Mayotte, si je ne me trompe pas.
Non, 2011.
2011, autant pour moi. Donc je me trompe, vous voyez. Merci de votre précision. Nico Blujon-Mérette, sur les inégalités, justement cette question de l'égalité sociale et de l'égalité réelle. Est-ce qu'on pourrait imaginer effectivement une égalité totale entre la situation dans les Outre-mer, pour ce qui est des prestations sociales, du niveau de salaire, etc., avec la situation en métropole? Est-ce que c'est l'objectif auquel il faut tendre, et si c'est le cas, pourquoi est-ce que ça n'est pas le cas aujourd'hui?
On part de très loin, et de fait la loi égalité réelle outre-mer de 2016, qui avait fait évidemment écho à beaucoup de problématiques identitaires, Créfom, pas juste culturelles, et qui avait été portée par le Créfom, effectivement, initialement, je m'en souviens bien, effectivement, le sujet, il consiste à dire comment on fait pour faire une logique de rattrapage. Et en fait, le principal problème qu'on observe toujours aujourd'hui, c'est qu'à force depuis 30 ans, 40 ans, même 50 ans d'être dans des logiques de rattrapage, en réalité, on ne met pas véritablement en avant le vrai potentiel de chaque territoire dans son bassin régional. Vous l'avez évoqué dans votre introduction, respectivement les uns les autres. Fondamentalement, aujourd'hui, le sujet que nous avons dans les territoires, c'est que les territoires ultramarins sont plus riches en moyenne que ce qu'il y a dans leur environnement régional. Je parle là spécifiquement pour Antilles-Guyane et pour l'océan Indien. Ce n'est pas vraiment le cas pour ce qui est du Pacifique. Mais fondamentalement, c'est bien moins riche, évidemment, que l'Hexagone. Il y a un seul territoire qui est aujourd'hui à un niveau de développement en termes de PIB par habitant, on va dire, si, bien que ce soit une mesure imparfaite, qui est comparable avec l'Hexagone, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça s'explique par le haut niveau de revenus de transfert pour une petite population.
Alors, l'actuel du jour, on l'évoquait tout à l'heure, on y reviendra peut-être, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Guyane. Et précisément, je vous propose de remonter près de 7 ans en arrière, lors de la première visite en Guyane également, d'Emmanuel Macron, à l'époque tout nouveau président de la République.
Seulement, la pollution de l'orpaillage clandestin et l'afflux incessant de migrants déclenchent de nombreuses revendications chez les habitants.
Mais une route de Maripasoula à Cayenne, je ne vais pas vous mentir, c'est très très compliqué à faire. Très compliqué.
Il refuse de faire de nouvelles promesses et répète à plusieurs reprises cette formule.
Je ne suis pas le Père Noël parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Je ne suis pas venu faire des promesses. Ce temps-là est fini. L'État a fait trop de promesses qui n'ont pas été tenues.
Mais Emmanuel Macron a tout de même assuré que les engagements pris par l'État lors de la crise sociale du printemps seront tenus.
Anne-Marie Le Pourriette, c'est 28 milliards qui sont octroyés chaque année au territoire d'outre-mer. Certains disent que c'est déjà beaucoup, d'autres pas assez. Qu'est-ce que vous en dites ?
Vous savez, c'est en 99 que les trois présidents des conseils régionaux de Martinique, Guadeloupe et Guyane avaient fait une déclaration commune, dite déclaration de Basse-Terre, qui avait fait beaucoup de bruit, dans lesquelles ils avaient dénoncé un assistanat généralisé. Oui. Bon, alors ils avaient, tout le monde, comme à chaque fois, c'est le grand Bataclan, c'est formidable, c'est la révolution, c'est extraordinaire. Que s'est-il passé depuis ? Rien du tout. Il y a juste un petit problème. J'ai discuté en tant que juriste depuis 30 ans sur les questions statutaires de l'outre-mer et de la Corse. À côté de ça, il y a les économistes. Parce que les juristes, c'est bien, mais les économistes, c'est peut-être eux qui... L'autonomie, c'est la solution, c'est eux qui l'ont. C'est pas le juriste. Le juriste peut fabriquer des tas de trucs avec ses outils, mais ça va pas donner de l'emploi, ça va pas donner d'égalité en soi. Bon. Et donc, les économistes vous expliquent, si un ouvrier agricole martiniquais gagne en un jour ce que l'ouvrier agricole costaricain gagne en un mois, la fameuse ouverture, comment on fait ? Bon, puisque, si vous voulez, le marché va être... on ne va pas pouvoir exporter, la Martinique ne va rien pouvoir exporter, sauf, effectivement, ces bananes vers l'Allemagne, mais à condition que sur 10 euros de bananes, eh bien, il y ait 8 ou 9 de subventions européennes. Voilà. Parce que sinon, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas compétitif. Bon. Donc, il y a un problème qui est là. Il ne faut pas le nier. C'est élémentaire en matière économique et sociale. Ouais. Bon. Vous avez des salaires et des avantages sociaux exigés par les élus locaux depuis 1946.
Vous nous laissez entendre que c'est quoi.
Et qui font... Non, mais le problème, c'est que...
Je n'arrive pas à percevoir ce que vous dites.
C'est pas que je ne perçois pas, c'est que je dis que la solution hors perfusion ne marche aucune...
Donc ils sont sous perfusion. Alors, Claudie Sarr, quand vous entendez ça, comment vous réagissez?
Moi, je suis toujours gêné lorsque j'entends la question posée. Au moment de la crise en Outre-mer, en 2009, à partir du 20 janvier, du 5 février 2009, au Guadeloupe-Martinique, la question était posée par des politiques et on pouvait l'entendre. Combien coûte l'outre-mer à la France?
Oui.
Combien coûte l'outre-mer à la France? Ça veut dire que c'est donc ces territoires-là sont en périphérie de la France. Ils ne sont pas considérés comme étant réellement des territoires français. Oui, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les restes de l'empire colonial français. Et puis, un ministère des Outre-mer. L'ancien ministère des colonies, transformé fin 1959-1960, transformé en ministère des Outre-mer, pour régir donc les restes de cet empire colonial. Et donc, la vraie question, c'est, est-ce que les Français d'Outre-mer sont réellement français ? Auquel cas, il faudrait supprimer le ministère des Outre-mer et dire vous êtes totalement français, ou alors ce ministère continue à exister et il faut entendre les revendications d'autonomie, de développement endogène, allez, restons sur le côté économique, développement endogène, grâce aux différentes régions, lorsqu'on est dans le bassin caribéen, achetons le pétrole au Venezuela.
Parce qu'il est moins cher que le pétrole importé.
Ça peut être si simple que ça, à cause de la question de qualité du pétrole. La qualité du pétrole.
Mais
au Guyana, ça peut être mieux.
Il y a d'autres exemples, d'autres possibilités de...
Mico Blujon-Mérette, sur cette question du niveau de vie, justement, effectivement, les Antillais sont des Français comme les autres, donc ils ont droit d'aspirer légitimement au même niveau de vie, aux mêmes prestations, etc. Mais il y a cette différence entre les Outre-mer français et puis les pays de la région. Et ça nourrit notamment, c'est parfois des tensions migratoires. On le voit en particulier à Mayotte, mais aussi ailleurs.
Bien sûr, et puis des tensions, vous parliez de la question des normes, par exemple. Comment la résoudre? Alors ça, si je le savais, je ne serais pas à Sciences Po.
Comment résoudre ces inégalités?
Je serais chez McKinsey et je vendrais ça très cher.
Ces inégalités de revenus.
Blague à part, c'est quelque chose qu'on voit en fait dans tous les Outre-mer, de tous les États. C'est-à-dire que fondamentalement, au Danemark, on va voir la même chose avec un Outre-mer comme le Groenland. On va revoir la même chose en Espagne avec les Canaries. Donc encore une fois, c'est structurel. Ce n'est pas juste lié à la France et à l'héritage français. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il y a une question liée aux normes et liée à l'argent qui est mis sur place dans la région, j'entends, à la fois par la France d'un côté, mais aussi par l'Union européenne. Des programmes Interreg, des programmes régionaux qui permettent donc de créer localement des économies qui pourraient potentiellement se lancer. Sauf qu'en fait, c'est jamais assez.
Il reste quand même que l'alimentation, elle coûte de 28 à 38% plus cher, parce que ça, on le découvre aussi en lisant la presse régulièrement.
Mais bien sûr, c'est là que je veux en venir.
C'est là que je veux en venir. sont importées.
Les territoires locaux, la structure économique des territoires fait que les industries de ce type-là ne sont pas compétitives. Et comme ce qui a été arrangé depuis longtemps, depuis le temps des colonies, c'est une perspective d'import de produits plutôt que de production locale, effectivement, vous êtes de moins en moins compétitifs. Donc la logique de rattrapage, ce n'est pas un rattrapage, on va dire... à Delta 1, c'est, il faudrait tripler les rattrapages pour espérer
l'octroi de mer
qui va être
qui remplit les caisses des collectivités locales. Donc plus on importe de métropoles,
c'est précisément c'est quoi Anne-Marie Le Poirier, c'est quoi précisément justement l'octroi de mer?
C'est une taxe pour tous ceux qui viennent de l'extérieur et qui est prélevée au profit des collectivités locales. Et vous parlez tout à l'heure de donner plus d'autonomie, je veux bien, mais il faut quand même que les élus locaux qui réclament plus d'autonomie apporte la preuve de leurs compétences gestionnaires. L'eau en Guadeloupe et l'eau en Martinique. Oui. Mes étudiants soutenaient des mémoires déjà sur la question de la gestion de l'eau. Et ils concluaient tous leurs mémoires en me disant « c'est pas la question du mode de gestion, c'est la question de la mentalité et du comportement des gestionnaires. »
Justement, c'est devenu un enjeu politique.
C'est une compétence locale.
Écoutez, c'est devenu un enjeu politique global. Et Marine Le Pen, eh bien, elle se veut la porte-parole des ultramarins. On l'entend souvent à l'Assemblée nationale évoquer ce sujet. C'était en novembre dernier.
Pardon, mais ça fait en réalité 10 ans qu'Emmanuel Macron est en situation de régler le problème de l'eau en Outre-mer. Il y a 80 000 personnes à Mayotte qui n'ont pas accès à l'eau courante. Il y a à la Guadeloupe, depuis 2010, un quart de la population qui n'a pas accès à l'eau courante. Il y a en Guyane 15% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Comprenez la colère de nos compatriotes d'outre-mer.
Claudie Sierre, Marine Le Pen est arrivée en tête devant Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Oui. C'était Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez qu'ils attirent tant d'électeurs? Autant Jean-Luc
Mélenchon. La démagogie marche toujours.
Je pense que l'exemple même des législatives est bien plus parlant. Vous avez effectivement une extrême droite qui fait de très bons scores face à une abstention record en Outre-mer. Ça permet de relativiser un petit peu ce vote à l'extrême et qui est un vote contestataire, très clairement.
C'était quand même assez surprenant, à première vue, que Marine Le Pen l'emporte aussi largement au deuxième tour de la présidentielle.
Les originaires d'outre-mer sont des Français, alors ça peut être paradoxal avec ce que je disais auparavant, mais sont les Français comme les autres, sont capables de ça. Moi, je n'oublie pas qu'en 2002, il y avait 1 300 000 personnes dans les rues à l'entre-deux tours pour dire non à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. En 2017, il n'y avait personne dans les rues.
Vous évoquiez aussi tout à l'heure le passé colonial de la France.
Passé esclavagiste.
On va y revenir d'une autre façon, en quelque sorte, Anna, avec le fait que des indépendantistes guadeloupéens, désormais, font appel à l'ONU, justement, pour accéder à l'indépendance.
Oui, car depuis 1961, l'ONU soutient les revendications de territoires qui aspirent à leur souveraineté grâce à un comité spécial de la décolonisation. Comité qui a déjà favorisé l'accession à l'indépendance de 80 colonies. Alors aujourd'hui, 17 territoires non autonomes sont inscrits sur la liste de ce comité, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, mais pas les autres DROMCOM. Alors au mois de septembre, lors de la 78e Assemblée des Nations Unies, une délégation guadeloupéenne d'associations anticolonialistes a fait le déplacement à New York pour réclamer que la Guadeloupe puisse être inscrite sur cette liste des pays à décoloniser, une façon de rendre visible cette question sur la scène internationale et de sortir de l'isolement, selon Jean-Jacob Bicep, le secrétaire général de l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Mais une fois inscrit sur cette liste, cela ne règle pas pour autant le problème du statut du territoire qu'il faut trouver d'un commun accord avec la puissance administrante. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, les habitants ont été consultés à 3 reprises par voie de référendum et à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» ils ont répondu 3 fois non. En 2018, 2020, 2021, attendez.
Ouais. On est prêts.
Mico Bujon-Mered, est-ce que ce désir d'indépendance, il est majoritaire aujourd'hui dans les Outre-mer ou pas?
Non, ce désir d'indépendance n'est pas du tout majoritaire.
D'autonomie alors, peut-être?
D'autonomie déjà un petit peu plus en tout cas, mais ce n'est toujours pas majoritaire non plus. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que chaque territoire a ses dynamiques propres. Ça, c'est le premier point. Généraliser sur les Outre-mer, déjà, c'est une mauvaise porte de départ. Ensuite, si on généralisait à l'échelle d'un bassin, ce serait déjà un petit peu mieux. Et encore, même un bassin comme l'océan Indien, Mayotte et la Réunion, c'est pas du tout la même situation. Les Antilles-Guyanes, c'est pas du tout la même situation non plus. Mais ce qui va être important, important, du coup, là, à comprendre, c'est comment vote-t-on ? Typiquement, quand il y a eu des référendums sur la question de l'indépendance ou de l'autonomisation ou des changements de statut dans les années 2010, dans le bassin antillais, très clairement, la réponse était non. Très clairement, et il n'y a pas de débat. Là, sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, pourquoi il y a des débats et pourquoi c'est interminable ? Pourquoi on est encore dans une situation d'empêtrement ? C'est tout simplement parce que le troisième vote a été malheureusement mal ficelé. Et donc, à partir de là, il n'a pas régler les problématiques qui étaient locales. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'à cause d'un vote mal ficelé, on a 30 ans de processus qui est remis en cause.
Est-ce que c'est une question de temps ou pas ? Est-ce que, c'est ce que semble, il va vous répondre, Claudie Serre, après. Dans les choses peuvent changer.
Ce groupuscule qui est allé à l'ONU pour réclamer l'indépendance de la Guadeloupe ne représente rien du tout. Enfin, franchement, c'est négligeable.
Anne-Marie, vous ne pouvez pas dire ça.
Oh, si.
Si, attendez, il va répondre.
Allez-y.
C'est négligeable de... La théorie juridique et politique a toujours dit, c'était en tout cas la doctrine d'Aimé Césaire et de tous les départementalistes, qui sont rentrés. Il ne faut pas oublier le télégramme d'Aimé Césaire à Maurice Thorez le soir du vote de la loi de départementalisation. Grande victoire pour les travailleurs antillais. Bon,
donc, c'est le début de la décolonisation.
C'est une victoire et ils ont dit, c'est la décolonisation par le haut. C'est-à-dire que l'assimilation, l'égalité des droits, c'était ce qu'ils appelaient la décolonisation par le haut. Certains l'avaient proposé pour l'Algérie, pour éviter l'indépendance de l'Algérie. Il a dit bah, il faut donner exactement les mêmes droits qu'en métropole à toute l'Algérie. Et là, De Gaulle a dit niette.
Claudie Serre, une conclusion en 30 secondes. Pourquoi est-ce que cette revendication d'indépendance, elle est aujourd'hui aussi minoritaire, justement, notamment aux Antilles-Guyane ?
J'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûr que tous les Français étaient pour que l'on coupe la tête à Louis XVI. Et aujourd'hui, c'est toujours une minorité. Vous avez une revendication de toute une jeunesse aujourd'hui en Outre-mer qui... sur la question de la dignité. À quel moment allons-nous pouvoir décider de notre propre destin ?
Dans l'entente avec la France. Vous voulez dire que l'indépendance ne peut pas arriver par les urnes ? J'ai pas compris votre comparaison avec Louis XVI.
Non, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la révolution, elle est faite par une minorité, quoi. Elle n'est pas faite par l'ensemble du peuple. C'est l'histoire de l'humanité. Et donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui des revendications légitimes. Vous avez aujourd'hui, vous parliez des avancées sociales. Il a fallu attendre, dites-moi si je me trompe, 1975, pour que certains départements d'outre-mer aient accès aux allocations familiales. Je veux dire, c'est ça la réalité des choses.
Merci beaucoup, mais malheureusement, nous arrivons au bout de ce débat, en tout cas pour ce soir, mais on le reprendra bien volontiers. Merci à tous les trois d'être venus échanger ce soir sur ce plateau.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.